Donc, nous allons passer donc à la seconde conférence de la matinée sur donc une toute autre approche et un tout autre cadre théorique avec donc une intervention de Luc Baptiste. Donc, il va s'agir cette fois de s'interroger en fait sur l'intérêt du récit narratif dans un cadre scolaire, donc pour les élèves. Donc, Luc Baptiste est lui-même professeur des écoles, mais également formateur à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, donc l'INSPE de Clermont-Auvergne. Et puis, vous avez donc réalisé un doctorat en sciences de l'éducation sous la direction de Philippe Mérieux, qui s'intitule « Apprendre à écrire à l'école primaire, modélisation et signification des démarches scolaires d'enseignement de l'écriture de Jules Ferry jusqu'à nos jours ». Voilà, donc nous vous laissons la parole. Merci.
Merci tout d'abord à l'accueil, Lana et Alexandra et toute l'équipe. Et puis à ce texte qui est la note d'intention de laquelle je suis parti, que je trouve remarquable et qui pour moi faisait écho à des préoccupations de ma réflexion et de mon action, puisque ma réflexion elle prend appui sur une longue expérience de prof des écoles, particulièrement en cycle 3, CM1, CM2, CE2 avant, mais aussi sur mes recherches, donc sur l'enseignement de l'écriture, sur les évolutions de la prescription, sur les modalités qui sont prescrites pour enseigner l'écriture. Et puis elle s'inscrit aussi, ma réflexion, sur mon intérêt pour l'écriture, puisque j'écris moi-même et je photographie, donc j'ai un intérêt pour, on dira, la démarche artistique, quoi. Voilà. Et en particulier l'écriture et la photographie. Cette intervention « Apprendre à écrire des récits, c'est apprendre quoi ?» s'inscrit dans le contexte d'une inquiétude diffuse, qui ne vous a sûrement pas échappé, plus ou moins clairement formulée, quant aux capacités d'écriture des enfants, des collégiens, des lycéens, des étudiants. Moi, j'entends à peu près les mêmes propos à l'entrée du collège, à l'entrée du lycée, et chez les collègues qui ont affaire à des L1 et L2, à l'université, disant que vraiment l'écriture pose problème et que la capacité même parfois à lire pose problème. On pourrait dire que c'est des avis empiriques comme ça, mais enfin, c'est quand même confirmé par des études très solides que j'évoquerai en deux mots. Et puis, on est certainement dans un contexte, même si Magali vous a dit un petit peu le contraire avant, de désamour pour l'écrit. En tout cas, assurément, chez beaucoup de jeunes, les séries racontent la vie mieux que l'écrit, semble-t-il. Donc la question de l'écriture, elle est généralement regardée avec inquiétude. À l'école, l'écriture de récits est particulièrement en souffrance, parce qu'il y a d'autres types d'écriture, hein. Répondre à des questions sur un texte, par exemple, ou bien faire la description, faire un mode d'emploi, ou bien écrire un compte-rendu d'une séance de sciences ou d'histoire ou de mathématiques, ou un résumé, ou ça pose moins de problèmes. L'écriture narrative pose problème, mais en même temps, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que mon travail de recherche m'a amené à voir que l'écriture a toujours posé problème à l'école, et depuis Jules Ferry. Je vous en dirai quelques mots. Et en plus de ça, on n'a jamais eu, dans l'institution scolaire, je crois, une définition stable, et peut-être faut-il s'en réjouir, on n'a jamais eu une définition stable de ce qu'est apprendre à écrire. Et je vous montrerai en quelques mots qu'on a constamment balancé entre, d'un côté, on ne veut pas de l'expérience de l'élève, on la repousse, on la réfute, on dit qu'il ne faut surtout pas que ça intervienne, et de l'autre côté, on fait appel à l'expérience de l'élève. Donc, dans l'histoire, depuis Jules Ferry, hein, puisqu'il faut bien avoir des limites, on a ce balancement. Je m'interrogerai aussi, au terme, c'est le titre d'ailleurs, sur l'utilité d'enseigner l'écriture narrative à l'école. Qu'est-ce qui s'y joue? Qu'est-ce qu'on apprend? Voilà. Donc, je développe un point de vue de science de l'éducation, mais Anna, Alexandra, je crois, ou Chloé, bien sûr, me disait, je ne sais plus qui me l'a dit, c'est le point de vue des sciences de l'éducation. Non, c'est le point de vue de quelqu'un qui a travaillé en sciences de l'éducation et qui, en l'occurrence, est en désaccord assez fort sur les modalités pratiques d'accès à l'écriture et d'apprentissage de l'écriture, en désaccord assez fort avec les didacticiens qui mènent la barque, les didacticiens de l'écrire qui mènent la barque depuis une trentaine d'années. Donc c'est un point de vue, voilà. Quelques considérations préliminaires sur la question de l'écriture à l'école aujourd'hui. On a des rapports, PISA, PIRLS, Programme international de recherche sur la lecture scolaire, et PISA, dont vous avez entendu parler, qui pointe une faiblesse croissante des élèves français en matière de maîtrise de la langue, en matière de compréhension du texte, en matière d'écriture. Un rapport du CNESCO, le CNESCO c'est un organisme du ministère qui vient d'être supprimé par, il y a peu de temps par Jean-Michel Blanquer, mais qui était un organisme d'évolution, d'évaluation et de réflexion. Un rapport du CNESCO en 2018 pointe trop peu d'écriture en classe, trop peu. Alors que les programmes sont pourtant assez clairs, hein. En particulier les programmes de 2015 sont très clairs. Mais là, trop peu d'écriture, une formation des profs qui est déficiente en la matière, qui est trop peu focalisée sur l'enseignement, apprentissage de l'écriture. Et puis, ce rapport pointe également une capacité faible à écrire en collège, avec une faible appétence, je cite le rapport, et avec même des chiffres, 40% des élèves de 3e, selon ce rapport, je ne suis pas expert du collège, je ne confirme ni n'infirme, 40% des élèves de 3e ne rédigent pas, ou très peu. Voilà. Pointe également une instabilité de la prescription. La prescription, ce qu'on appelle la prescription dans l'éducation nationale, c'est ce qui nous est donné à faire, ce que la nation donne à faire à ses fonctionnaires enseignants. Et puis, le rapport du CNESCO pointe également une prépondérance à porter sur une prépondérance de l'évaluation, du souci d'évaluation. Alors maintenant, que disent les derniers programmes? Je vais vite là-dessus, mais il faut quand même qu'on soit un peu... On est dans un contexte, on ne peut pas parler de ces choses-là sans avoir quelques points d'appui. Les derniers programmes disent quelques points que je souligne. L'enseignement de l'écriture est fortement prescrit, très fortement prescrit. On affirme une importance cruciale de cet apprentissage qui doit être quantitativement importante, qui doit être quotidienne, qui doit donner lieu à une variété de formes textuelles et qui doit aboutir à des textes d'une à deux pages en fin de cycle 3. Alors, fin de cycle 3, maintenant, depuis deux ans, trois ans, c'est la sixième. Je peux vous assurer, pour bien connaître quand même le métier, qu'un texte d'une à deux pages en fin de cycle 3, il y a beaucoup, beaucoup de classes où ça n'existe pas du tout. Donc le message est clair. Le message, c'est de dire aux enseignants que les élèves doivent être beaucoup plus sollicités et qu'on doit et qu'on peut attendre des élèves beaucoup plus que ce qu'on en attend généralement. Et comme prof qui va de temps à autre visiter des stagiaires, des débutants dans le métier, il m'arrive très souvent d'avoir affaire à cette question où on me dit « Ah, mais je ne fais pas copier, je ne fais pas écrire parce que tout le monde ne va pas y arriver. » Vous voyez ? Donc ça devient une espèce de justification, une sorte de justification pour dire « Voilà, je ne peux pas faire l'écriture comme je le voudrais parce que certains ne vont pas y arriver. » Ça, c'est un fait qu'on trouve rarement. Autre point qui est affirmé dans les programmes encore, c'est la nécessité de recourir à la littérature, ce qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est un phénomène récent. C'est-à-dire, pour moi qui ai étudié les textes officiels depuis Jules Ferry, la prescription en matière d'écriture, le recours à la littérature, ça date de 2002. 1999, c'est un texte préliminaire, mais... Et encore, je dis bien la littérature, c'est-à-dire la littérature faite et non pas la littérarité dont je parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire l'investissement de soi dans le texte. Donc, nécessité de recourir à la littérature, disent les programmes de 2015, parce qu'elle est occasion de construction de soi. Ça me réjouit de voir ça, parce que je ne l'ai pas vu souvent dans les programmes. Elle est occasion de construction de soi, On dit d'abord, elle développe l'imagination, la connaissance du monde, ça c'est les banalités habituelles. Bon. Mais ensuite, elle est occasion de construction de soi. On parle, dans ces programmes de 2015, de posture d'écriture créative, je cite, et on parle de posture d'auteur. De posture d'auteur, c'est génial comme expression. L'auteur, c'est celui qui s'autorise, donc celui qui est autorisé à avoir un regard qui est un regard singulier, qui n'est pas le regard forcément du voisin ou des voisins ou des collègues de la classe. Ça veut donc dire que ça met en cause la question de l'évaluation. Parce que, vous savez, les maniaques de l'évaluation, qui sont légion dans la profession, on est obligé, hein, il y a de la prescription beaucoup là-dessus. Quand on veut évaluer, c'est beaucoup plus simple quand tout le monde produit quelque chose qui peut passer sous une norme commune, si vous voulez. Quand on parle de posture d'auteur, ça devient plus compliqué. Comment on va évaluer si on reconnaît à l'élève le droit à une posture d'auteur ? Posture d'auteur, ça veut dire le droit de s'instaurer comme une voix singulière parmi d'autres voix singulières. C'est très facile à dire. Pour le faire exister dans la classe, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut arriver à faire en sorte que l'élève déjà reconnaisse comme légitime sa propre expérience et son propre regard sur les choses. Ensuite, dans ces programmes 2015, on indique aussi très fortement des choses sur les modalités de travail. En l'occurrence, on dit qu'il n'y a pas que le texte qui compte. Il y a le processus d'écriture. Ça fait écho à des choses qui ont été dites auparavant. On s'attachera aussi, c'est ce qui est recommandé, hein, on s'attachera au processus d'écriture et pas seulement au texte fini. C'est-à-dire le prof, il ne doit pas seulement ramasser les textes à la fin, il doit aussi être dans un travail d'accompagnement. Voilà. On n'est pas seulement là pour instrumenter les esprits, on est là pour accompagner les âmes, comme disait Philippe Mérieux. Maintenant, qu'est-ce que c'est la réalité de la pratique de l'écriture dans les classes ? Après avoir vu les programmes, on n'écrit pas assez, les rapports le disent, on n'écrit pas assez d'écrits narratifs, et même dans plein de classes, la copie ne se fait pas. Et le travail de copie, il m'arrive assez fréquemment quand je vais voir des débutants, mais je dis les débutants parce que c'est les débutants que je vais voir, mais de temps à autre pour les conseiller, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les débutants qui pratiquent comme ça. Vous avez maintenant des classes où on ne copie pas, ou pas beaucoup, ou pas assez. J'ai vu plein de fois des choses à copier, on a mis au point un résumé, un compte-rendu d'expérience, tout ce que vous voulez. Et on me dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui, mais ça va être long, il y en a qui ne vont pas y arriver. Donc, pour mettre tout le monde à égalité, plutôt que de faire copier, je fais un texte à trous. Et les élèves n'auront plus qu'à remplir des trous. Et moi, ça me fait bondir, ça. Parce que si on ne travaille pas la copie, comment on peut exiger des élèves qu'ils soient ensuite capables d'écrire des textes propres, des textes qui leur soient propres, qui soient des textes personnels? Ce n'est pas possible. Le travail de copie est déjà tellement complexe, il faut si longtemps pour l'acquérir, et il se joue tellement de choses dans le travail de copie, tellement de choses. L'apprentissage du geste graphique, de la position physique, de la très grande attention qu'il faut, de cette forme de réclusion, d'abstention qui fait qu'on se ferme à l'autre. Et c'est important de se fermer à l'autre. Quand on sait qu'un récent sondage disait que le temps d'attention moyen d'un collégien, d'attention continue, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'avais lu ça, était de 6 minutes. 6 minutes sans décrocher. C'est une moyenne, hein. Il y en a qui sont à 1 minute ou 30 secondes. Donc il y a quelque chose qui s'apprend de cette attention dans la copie, bien sûr. Il y a aussi un apprentissage des normes, de la norme, bien sûr, graphique, mais aussi de plein d'autres normes. Un apprentissage de l'intériorisation des énoncés. C'est-à-dire qu'on voit très bien quand on est en classe qu'un élève qui n'a pas l'habitude de copier ou qui n'est pas à l'aise avec cela, il va copier, il ne va pas copier apprendre, il va copier apprendre. Donc il n'a pas intériorisé le mot ou le groupe de mots en fonction du niveau auquel on se situe. Voyez. Donc cet apprentissage-là, on ne peut pas espérer qu'il va se faire comme ça par la voie du Saint-Esprit ou en tombant du ciel. Hein. Ça se pratique. Voilà. On apprend aussi dans la copie l'intériorité, la gestion de l'intériorité, le fait qu'on est toujours en train de penser à d'autres choses en même temps, mais qu'il faut le limiter, comme vous êtes en train de penser à autre chose, pour une part, que vous limitez peut-être, tout en m'écoutant. Et quand l'élève, il faut lui apprendre cela, que bien sûr, on a des choses qui circulent, qui délibèrent envers et contre notre volonté, dans notre tête, mais qu'en même temps, il faut repousser ces choses et qu'il faut se concentrer. Apprentissage de l'intériorité, apprentissage de la responsabilité aussi, on est responsable de sa copie. Et je redis cette question, comment est-ce qu'on peut demander à écrire, à des enfants, d'écrire des textes si la copie est déjà une sorte d'obstacle ? Deuxième partie, maintenant, après avoir vu un peu le contexte, l'écriture à l'école, quelques éléments sur l'histoire, quelques éléments pour comprendre ce qui se joue dans cette question de l'apprentissage de l'écriture ou de la scripturalité. D'abord, la difficulté de l'écriture, elle a été reconnue depuis toujours. Je vous cite Jules Ferry, 1881, c'est pas un journaliste d'aujourd'hui. « Nul enseignement n'a une importance aussi considérable et nul n'est en souffrance au même degré. » Et tout le temps, jusqu'aux années 70 de façon très explicite et ensuite de façon plus implicite, le ministère n'a cessé de dire aux enseignants « C'est ce qu'il y a de plus dur, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qu'on échoue totalement. On n'y arrive pas. Et il y a des textes qui sont très explicites, qui font aveu d'échec, réellement. On remarquera aussi que dans les difficultés de cette difficulté de l'écriture qui a été reconnue depuis longtemps, il faut en prendre conscience aussi et on en prend conscience quand on... Enfin, il vaudrait mieux quand on veut faire écrire des élèves. C'est que c'est pas parce qu'on a appris à écrire, et on a tous appris à écrire à l'école, au collège, au lycée, à l'université, que l'on a de l'aisance avec l'écriture. Il y a une espèce de mirage quand on dit, vous savez, l'école, c'est lire, écrire, compter. Aujourd'hui, on ajoute les valeurs de la République. Lire, écrire, compter. Ça laisse penser que ces trois entités, lire, écrire, compter, sont de même statut, ce qui n'est pas vrai. Quand on a appris à lire, on sait lire, voilà. Même si on ne lit plus, on sait lire, on sait compter à peu près quand même. Écrire, c'est très différent. Quand on fréquente des gens qui écrivent, on sait très bien, et ça, les gens qui n'écrivent pas ne le perçoivent pas parfois, que c'est difficile pour tout le monde, même quand on est habitué à écrire. Écrire reste difficile. Deuxième point, on a appris à écrire à l'école, mais on n'écrit plus guère, pour l'essentiel d'entre nous. Y compris dans des professions intellectuelles comme prof, faites un sondage, vous verrez qu'on écrit très peu, finalement. Hein, très, très peu. Et donc, il ne faut pas perdre de vue cette difficulté de l'écriture quand on a affaire à des élèves. Autre chose encore, c'est que l'écriture est une activité éminemment solitaire. Et que quand on enseigne, si on l'enseigne de façon un peu collective, ce qui parfois est très intéressant, et qu'il faut pratiquer, c'est-à-dire faire écrire à plusieurs, faire écrire à deux, faire écrire par groupe. Mais il ne faut pas se limiter à ça, parce que ce qu'on enseigne, c'est non seulement la discipline ou la matière, mais c'est aussi une représentation de la discipline ou de la matière. Et si l'élève perçoit que l'écriture, ça ne se fait qu'à plusieurs, on ne lui donne pas une représentation adéquate et juste de l'écriture, il me semble. Ensuite, je vous disais... Autre point, il n'y a jamais eu de définition stable de l'écriture dans l'institution scolaire, de l'apprentissage de l'écriture. Il y a même eu une succession de modèles. Une succession de modèles... j'ai jusqu'à quelle heure ? Il faut que je fasse gaffe. Pardon ? 11h15. Pas de définition stable. Une succession de modèles. Je vous cite quelques points de repère. Au moment de Jules Ferry, on invente la rédaction. La rédaction qui est un texte où, en fait, il s'agit d'intégrer la langue française, la langue écrite, et il s'agit surtout d'assimiler des normes morales, énormément. C'est-à-dire qu'il s'agit très peu de textes qui soient personnels. Les gens qui regardent les stocks de rédaction qui restent au musée de l'éducation disent tous... elles sont toutes les mêmes, d'une certaine façon. qu'elle montre qu'on a intégré des normes morales et que la rédaction servait à ça. Ensuite, en 1923, ce qui prévaut, c'est l'expression. En 1923, il y a des programmes après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, vous savez, la mode n'est plus au dressage. Le dressage qui a donné le terme élève. L'élève, c'est celui qu'on élève. C'est-à-dire, c'est le truc un peu informe, là, un peu entre la bête et le fou, ou ramolli, qui n'a pas d'existence, qui n'est pas un être de même statut que l'adulte. Et on le redresse, on le dresse. Autrefois, les parents disaient aux enfants, à l'école, ils vont te dresser. Dresser, c'est-à-dire élever, en faire un élève. Et dans les années 20, avec le courant de l'éducation nouvelle, on pense l'éducation autrement, on pense l'éducation sous la forme de l'épanouissement. Le bouton de fleur qui s'épanouit. Tout est déjà contenu. Merveilleux, non? Tout est déjà contenu. Et le boulot de l'école, c'est d'épanouir. L'épanouissement. Donc, en 23, dans des programmes qui ne seront absolument pas appliqués, absolument pas, que les profs, que les instituteurs et les inspecteurs refuseront, on recommande de pratiquer l'écriture comme expression. C'est-à-dire qu'on veut que l'élève s'exprime, ce qui n'est pas du tout la même chose que de lui demander de montrer qu'il a bien assimilé les normes morales, du tout. Ensuite, l'expression, ça reviendra dans les années 70, mais ça cohabitera dans les années 70 avec l'exigence d'apprendre à écrire pour communiquer. On est en plein dans la linguistique structurale de Jacobson, Roman Jacobson, qui pense tout acte de langage en termes d'émetteur, récepteur, et puis message entre les deux. Et donc, on parle de communication beaucoup, mais tous ces modèles, ils ne sont pas forcément exclusifs. L'un ne repousse pas l'autre, ils se superposent, ils se juxtaposent. Et puis, en 85, à l'époque de Jean-Pierre Chevènement comme ministre, on parle de pratique réglée de la langue. Alors, pratique, je cite là, hein, donc on parle beaucoup d'écrit fonctionnel, c'est-à-dire que écrire doit avoir une utilité, et l'objectif, c'est que tous les enfants entrent dans l'écrit, dans la scripturalité, avec cette terreur qui apparaît à l'époque, qu'est l'illettrisme, en repoussoir, si vous voulez. Et puis, après, on a aussi un autre modèle qui a couru pendant toute la Troisième République, qui est l'imitation. Pendant toute la Troisième République, les textes officiels font interdiction aux instituteurs de faire écrire des textes par imitation. C'est la bête noire, l'imitation, parce que l'imagination, il faut savoir que l'imagination est complètement refusée pendant des décennies et des décennies. Hein. Ça me trouble, ces voix qui apparaissent là. L'imitation, mais l'imitation, elle est promue en 2002. En 2002, on dit qu'il faut faire appel à la littérature et il faut imiter. On ne cite pas le verbe parce que c'est un truc un peu sensible, mais quand même, c'est ça, quoi. Et puis, aujourd'hui, on est clairement sur ce que j'appellerais la littérarité dans les instructions. Ça ne veut pas dire dans la réalité, encore une fois. La littérarité que je définis en reprenant une définition d'Yves Reuter, un didacticien de l'Université de Lille, qui dit « l'engagement, l'investissement de l'écrivain dans son texte ». C'est-à-dire que si j'écris un mode d'emploi destiné à un public de ce fauteuil, je ne suis pas dans l'investissement du texte. C'est un exercice, si vous voulez. Hein. Voilà. L'investissement, ça veut dire « j'y mets de moi ». Que je raconte des événements de ma vie ou que je raconte une histoire, je m'engage. Il y a un engagement. La littérarité, c'est ce qu'on entend par ce terme, mais je n'exclus pas que vous puissiez le trouver dans d'autres définitions. Hein. Voilà. Donc, en regardant ce que je vous ai montré, ces modèles-là qui se superposent, se juxtaposent, cohabitent, s'excluent à certains moments, eh bien, on voit bien qu'il y a ce balancement entre neutralisation de l'expérience de l'élève et appel à l'expérience. En 1923, en 1972, dans les textes actuels aussi, on fait appel à l'expérience de l'élève, quand on dit posture d'auteur, bien sûr. Hein. Et puis, quand on parle de pratique réglée de la langue, on est beaucoup plus dans un éloignement de l'expérience et dans des exercices où il va s'agir de régler cette langue, bien sûr. Alors, on peut, bien sûr, ça incite à se demander ce que nous dit ce balancement, cette alternance, et je ne vais pas développer, mais en deux mots, je dirais que dans l'apprentissage de l'écriture à l'école, il y a bien sûr quelque chose qu'on peut dire les apprentissages langagiers, hein, la maîtrise langagière, mais il y a aussi quelque chose que j'appelle l'instauration de l'individu dans le social. L'instauration de l'individu dans le social, se faire une place dans le social. On dirait, si on reprend Ricoeur, d'écrire son identité narrative, ou en tout cas aller dans ce chemin-là. Maintenant, il faut que je dise quelques mots d'une technicisation didactique qui s'est produite à partir des années 80, à peu près 80, qui a été dans son apogée peut-être dans les années 90-2000, une didactique fondée sur un modèle américain de cognitiviste qui s'appelle le modèle de Hayes et Flower, Flower comme une fleur et Hayes, H-A-Y-E-S, qui en gros voit la pratique d'écriture comme la planification, premier temps, la mise en mots, deuxième temps, et la révision, troisième temps. C'est-à-dire, c'est l'idée que quand il faut que j'enseigne à l'élève, d'abord à rassembler ses idées dans le panier, comme on fait les courses sur Internet, on met ce qu'il y a à dire dans le panier, puis après on met en mots, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin on met en mots, c'est-à-dire comme si on pouvait tirer les idées du panier, puis les mettre en mots, mais enfin quand on écrit, on sait que c'est dans le travail d'écriture, beaucoup que se formule, en tout cas la justesse des formulations, et ce qu'on veut dire, et qui n'est pas, qu'on pourrait même caricaturer les choses en disant j'écris pour savoir ce que je veux dire. Donc cette histoire de ce modèle qui a été une sorte de socle pour les didacticiens, voilà, il faut l'avoir en tête. Deuxième socle pour la didactique de l'écriture, qui a eu une très grande importance en France parce qu'elle règne sur les maisons d'édition, sur les formations de profs. Deuxième socle, c'est l'idée que la compétence d'écriture étant une compétence massive, globale, pour l'enseigner, il faut la découper en morceaux, la mettre en petits bouts, comme je démontrais le moteur de ma voiture pour nettoyer chaque pièce et remettre en ordre chaque pièce. Et il me semble, mais c'est une critique que les didacticiens, que certains n'accepteraient pas, il me semble que ces didacticiens, en faisant ça, ont fait l'hypothèse que l'élève est capable de recomposer ses compétences partielles qu'on lui a fait travailler, hein, les connecteurs temporels, l'usage des temps, enfin tout un tas de choses, voilà. Et d'une certaine façon, on retrouve par là quelque chose qui était une sorte d'opposition traditionnelle entre le fait de dire d'abord on apprend tout ce qu'il faut et après on écrit. Et puis, de l'autre côté, la position qui était celle de Célestin Freinet, le pédagogue des années 20-30, disant pour écrire, faut écrire. Voilà, il y aura des fautes d'orthographe, ça ne tiendra pas debout, la ponctuation ne sera pas bonne, mais c'est comme ça qu'on va commencer. Et on retrouve cette sorte d'opposition, si vous voulez, là-dedans. Hein. Voilà. Dans la didactique, en quelques mots encore, on pense très clairement le savoir écrire comme un savoir technique. On a parlé, il y a eu des textes un peu délirants, hein, d'outils algorithmiques, je cite, de procédures... Bref, on multiplie les contraintes textuelles. Et les didacticiens, il faut leur rendre grâce quand même, à partir de la fin des années 90, dans les années 2000, ça a mis du temps à se mettre en route, ont commencé à se dire, mais où est-ce qu'on entraîne les élèves, là ? On entraîne les élèves sur des exercices qui sont peut-être utiles, mais pas sur réellement du travail de production d'écrit. On les entraîne sur des exercices et on a perdu en route le sujet écrivant. On l'a oublié en route. Et on a oublié en route que pour qu'un élève se mette vraiment dans l'écriture, il faut qu'il y soit. Il faut qu'il s'arrache quelque chose pour le mettre dans l'écriture. Autrement dit, la didactique a construit un appareillage d'accès à la scripturalité, un modèle très technique, ou très technicien même, qui, et là c'est peut-être le plus compliqué pour moi, qui présuppose que l'élève doit être toujours complètement maître de son intention, C'est-à-dire qu'avant de commencer à écrire, il doit être totalement maître de son intention. Pour avoir fait écrire des élèves pendant quelques dizaines d'années maintenant, je pense que bien sûr, il faut conduire l'élève à savoir de quoi il va être question dans ce texte dans lequel il se lance. Mais il faut laisser aussi la porte ouverte à quelque chose qui surgit. Et quand on écrit ou quand on fait écrire des élèves, on voit bien que le surgissement dans une écriture narrative est extrêmement important et que parfois même le noyau ou le nœud du texte, ça va être quelque chose qui n'avait pas été prévu au départ. Et il me semble que ce modèle qui met en avant l'intention n'a pas fait du bien au travail d'écriture, d'apprentissage de l'écriture, d'enseignement de l'écriture plutôt. Et puis, il faut penser aussi que cette didactique, elle est complètement orientée par les nécessités de l'évaluation. Un des premiers travaux en didactique de l'écriture s'appelait EVA, du groupe EVA, comme évaluation, dans les années 80. Ce pari a certainement échoué. Il laisse de côté cet aspect construction de soi dont les programmes parlent aujourd'hui. Il laisse de côté, il me semble, l'aspect inclination, désir, envie d'écrire qu'il faut pour se lancer dans l'écriture. Il laisse de côté, parce qu'il, d'une certaine façon, il ne peut pas les traiter, les disparités d'expérience et de vécu qui sont une richesse et non pas quelque chose qu'il faut repousser et dont il faudrait se priver. D'une certaine façon, ces courants de... Enfin, avec des nuances, bien sûr, des tas de nuances, mais on a voulu se défaire de toute intrication affective et langagière. Si vous voulez, on veut éliminer l'expérience, on veut éliminer ce qu'on a vécu pour que tout le monde soit sur le même plan. On est dans un univers communicationnel et sans doute que ça explique la très grande difficulté à faire produire des écrits narratifs dans les classes. Quant à moi, je recommande de recourir à l'expérience. Je ne vais pas faire un cours de didactique, je n'en ai ni le temps, ni le... Et puis vous n'êtes pas le public pour cela, mais je donne quelques éléments, très très peu d'éléments. D'abord, il faut donner une légitimité à l'expérience de l'élève si on veut faire appel à son expérience. Une légitimité à l'expérience, ça veut dire verbaliser. Ça veut dire je ne demande pas à mes élèves, bon, on a vécu ça, allez, on écrit, allons-y, parce que ça n'a aucun intérêt, ça ne marchera pas. Parce que ce qu'ils se sont dit dans la cour, dans les couloirs ou entre copains, c'est bien plus intéressant que ce qu'ils vont être capables d'écrire qu'un truc chronologique sans intérêt. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut aller montrer aux élèves que dans ce qu'ils ont vécu, individuellement ou collectivement, avec cette idée que ce n'est pas parce qu'on vit quelque chose collectivement qu'on vit la même chose. On le sait tous, hein ? On peut aller à deux au même endroit et on se dit, mais on n'a pas vu la même chose, tous les deux. Eh bien, il faut arriver à légitimer ça chez les élèves, qu'on a vécu une sortie au musée, ou en ville, ou faire du sport, ou ce que vous voulez, et on va écrire là-dessus que chacun a sa propre expérience. Et pour cela, le moyen que j'ai utilisé très longtemps et qui fonctionne à mon sens, c'est de faire verbaliser l'expérience, de commencer par un lancement par la parole. Des fois, je me dis que je ne découvre pas et qu'on ne découvre pas ça aujourd'hui, puisque le pendant de la rédaction à l'époque de Jules Ferry, c'était ce qu'on appelait l'élocution, qui a disparu depuis, un mot qu'on n'emploie plus, l'élocution qui était une sorte de pendant à la rédaction, hein, le versant écriture, le versant parole, dans cette acquisition de la langue. Donc je disais, donner une légitimité à l'expérience, verbaliser et socialiser l'expérience, faire en sorte que le texte, ça soit attirant, que ce qu'on va écrire, ce soit attirant. Échapper aux mots qui ne disent rien, c'est le principal enjeu quand on est prof, échapper aux mots qui ne disent rien, vous voyez. Et quand on fait écrire des élèves, eh ben, la plage est magnifique. La plage est magnifique, on trouve la phrase, voilà. Et on montre facilement, assez facilement, en interrogeant 5-6 élèves, que magnifique, ça n'a pas le même sens pour toi, et pour toi, et pour toi, et pour toi, et pour toi. Et donc on dit à l'élève qui a écrit, qui lit son texte, on lui dit, mais magnifique, ça ne transmet rien. ça ne transmet pas d'image mentale, rien du tout. Donc c'est vide, c'est creux. Donc plutôt que ça, on va aller travailler plutôt la description. Alors, autre dernier point sur cet aspect pratique, c'est mettre les élèves en interaction, bien sûr, c'est-à-dire les mettre dans des moments d'écriture qui soient des ateliers d'écriture où on a le droit de prendre, on a le droit de voler, on a le droit de piller les autres, on a le droit de piller les écrivains qu'on a lus, on a le droit de tout faire, de mélanger le vrai et le faux. On n'est pas dans l'écriture d'un texte journalistique, on est dans l'écriture d'un texte narratif sur une expérience qu'on a vécue personnellement ou qu'on veut raconter personnellement. Mettre donc les élèves en interaction. Ensuite, et pour finir mon intervention, j'ai jusqu'à, redites, 15. Oh là, ça va être dur. L'écriture narrative, pourquoi ? Pourquoi poser cette question de la pensée narrative ou de la démarche narrative à l'école ? Là, je m'appuie sur Jérôme Brunner, Brunner, B-R-U-N-E-R, Jérôme sans accent, c'est un Américain, psychologue cognitiviste américain qui est mort il y a quelques années, qui distingue démarche scientifique et démarche narrative, et qui dit, Brunner, à l'envers du sens commun et des scientifiques, qui dit « on n'enseigne pas à l'école la démarche narrative, on n'enseigne que la démarche scientifique », c'est-à-dire la démarche de connaissance scientifique, si vous voulez. Et Brunner dit « l'école ne s'occupe que de science, elle ne s'occupe pas de cette capacité à raconter, y compris dans la petite conversation, comme disait Magali tout à l'heure, et d'une certaine façon, on ne s'en occupe pas parce qu'on a l'impression que c'est naturel, que naturellement, on sait raconter et on sait entendre ce qu'on nous raconte. Mais d'abord, depuis Bourdieu, Lahire et compagnie, on sait que ce n'est pas naturel, que c'est complètement culturel. Et que certains élèves, quand on... Il y a des profs dans la salle, je crois, certains élèves ne sont guère capables d'entrer dans la narration, et d'autres, oui. Parce qu'il y a une pratique à la maison. On est dans la démarche scientifique quand on s'interroge, quand on observe, et puis qu'on pose une question, et puis qu'on fait des hypothèses. Je dis toujours à mes étudiants, la démarche scientifique, ce n'est pas seulement en science. Hein. Quand on étudie un texte et qu'un élève dit « tel personnage fait ça, tiens, ça m'étonne », et l'autre dit « ah ben moi je sais pourquoi il le fait, c'est parce que ». Là, soit on donne la réponse, soit on dit eh « ben, ça c'est une hypothèse, y a-t-il d'autres hypothèses ?» On va vérifier dans le texte. Pour moi, on est dans une démarche de connaissance scientifique. Là. Donc ça, qu'est-ce que ça vise, cette démarche de connaissance là? Ça vise, d'une certaine façon, le consensus. C'est-à-dire quand on aboutit à quelque chose qui devient, on pourrait presque dire, de la théorie ou en tout cas du consensus. On est tous d'accord, que ce soit sur une expérience scientifique ou sur un texte, on s'est mis d'accord, ça produit du consensus. Quand est-ce qu'on est dans la démarche narrative? Quand on tient une conversation, quand on écrit un texte, quand on lit, bien sûr, on est toujours dans la démarche narrative. Là. Prioritairement, c'est notre capacité à verbaliser nos émotions, nos désirs, nos pouvoirs, nos connaissances, tout ce qu'on voudra. C'est cette expression magique, se raconter des histoires. Se raconter des histoires, c'est se raconter mutuellement des histoires, c'est aussi se raconter des histoires soi-même. Sur sa propre vie, c'est on n'arrête pas, on recompose continuellement notre vie, on s'en donne une lecture ou une écriture, c'est ça, déjà, prioritairement, la démarche narrative. Mais c'est aussi, bien sûr, toujours raconter, y compris raconter des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai perçues, les combiner, les rapprocher. Par exemple, j'ai observé dans le tram ou dans le métro une altercation entre deux mamans dont l'une avait un berceau et puis une altercation qui a failli tourner au poing, voilà. Et puis je raconte ça, je vous raconterai ça dans le détail, j'ai capté quelque chose. Mais si je rencontre quelqu'un le soir entrant à la maison, je vais raconter ça puis je vais le mettre en lien avec autre chose. Donc raconter, c'est toujours capter des points, des éléments, des segments du continuum de la vie et puis les mettre en relation avec autre chose. Donc c'est combiner, c'est en faire une histoire entre deux événements que j'ai captés qui n'ont aucun lien. C'est en faire une histoire. On n'arrête pas de faire cela normalement, hein, quand on... Voilà, c'est en faire une histoire, c'est en faire un récit, c'est entrer en délibération, même sans se le dire et sans le dire, entrer en délibération sur la signification. Donc c'est produire, c'est fabriquer, c'est penser d'une certaine façon. ça me bouge la tête, quoi, de mettre telle chose avec telle autre chose en lien, deux choses qui n'ont rien à voir. Et finalement, c'est ainsi que naissent les histoires, et on n'arrête pas d'être dans les histoires, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on retient, qu'on rejette, qu'on garde avec soi, qu'on reprend dans cette circulation entre des expériences? Eh bien, c'est quelque chose qui fait dissensus. C'est-à-dire que la démarche de connaissance, on cherche le consensus. La démarche narrative, ce qui nous accroche, c'est ce qui fait dissensus. Vous avez déjà lu 1000 romans sur une histoire d'hommes et de femmes, d'amour, de tromperie, de tout ce que vous voulez, de choses banales d'une certaine façon. Sauf que là, vous tombez sur un roman qui vous raconte des choses banales. Vous n'avez rien appris, on peut dire d'une certaine façon, peut-être avez-vous appris en y réfléchissant. Et pourtant, ce roman vous accroche. Cette pensée, cette démarche narrative-là, elle vous accroche. Mais on pourrait dire la même chose de la conversation. On a 100 conversations dont on ne se souvient pas, et puis on va avoir des conversations qui vont nous faire décrocher, qui vont nous emmener ailleurs, qui vont nous décaler. Alors, qu'est-ce qui se joue dans la pensée narrative, dans la démarche narrative, en quelques points très rapidement? Et d'une certaine façon, la question, c'est pourquoi l'école devrait-elle cultiver le mode narratif, et peut-être le cultiver plus qu'elle ne le fait? Pourquoi il faudrait que les élèves apprennent à appréhender et à circuler dans ce qui se trame dans les récits? Donc à s'orienter, c'est ça finalement, à s'orienter dans des significations multiples. Jérôme Brunner dit à un moment, nous vivons dans un océan de récits et nous sommes constamment confrontés à des choix. Je regarde ça, je dis ça plutôt que ça, même si ce n'est pas totalement conscient. Brunner dit aussi, le récit, c'est le lieu de l'élaboration des significations. Le lieu de l'élaboration des significations, et c'est par là, explique-t-il, que l'enfant s'inscrit dans la culture. Et il dit même, si on ne travaille pas là-dessus, alors l'enfant va s'inscrire dans des contre-cultures ou dans des cultures rebelles, dans des choses qui ne l'intégreront pas, mais qui le mettront à l'écart, d'une certaine façon. Plus techniquement, maintenant, trois points. On pourrait dire que l'activité langagière, la discussion, la conversation, l'écriture, la parole, ce qu'on veut, c'est constamment la possibilité d'un réglage social, constamment. Quand je suis dans une conversation, je me règle. Quand je suis dans l'écriture, je me règle avec ce que le lecteur potentiel peut saisir, ou lire, ou entendre de ce que j'écris. Donc la possibilité d'un réglage social qui signifie que cette pratique langagière, qu'elle soit écrite ou orale, elle est un travail de manipulation et d'intégration des liens sociaux aussi. Et donc elle est une façon de s'instaurer comme agent dans le jeu social. Dans la conversation, par exemple, mais aussi dans l'écriture, l'élève va entendre ou va faire face à une diversité de points de vue. Et il va être amené à choisir. Et choisir, c'est s'installer comme agent. Deuxième point que je reprends à Paul Ricoeur, philosophe Ricoeur, c'est l'idée de polémique avec les normes, que je trouve une idée géniale. L'idée de polémique avec les normes, c'est l'idée que dans l'écriture, dans la conversation, quand je rapporte, quand je transmets, quand j'écris, quand je fais un récit d'une façon ou d'une autre, je choisis, je fais des choix. Donc je polémique avec les normes, je me confronte aux normes. Et d'ailleurs, si on y songe, vous racontez le soir à votre conjoint, votre amoureux ou amoureuse, quelque chose que vous avez vécu. Une altercation, par exemple, comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Le simple fait de le raconter vous conduit à prendre position. Et à prendre position éthiquement. Éthiquement parlant. On le vérifie parfois quand deux personnes ont vécu la même chose, ce que je disais tout à l'heure, et les deux ne l'analysent pas, ne le rapportent pas, ne le racontent pas de la même façon, jusqu'à se dire on n'a pas vu la même chose. Ce travail de polémique avec les normes, comme le dit Ricoeur, de mise en jeu et de mise en réflexion des actions et des personnages, il dit c'est en cela que la narrativité est une, je crois de mémoire, est une propédeutique à l'éthique. C'est-à-dire qu'on travaille l'éthique dans la narration. Troisième point que je reprends aussi à Ricoeur, et c'est pas tout ça, c'est extrêmement important dans un apprentissage. Quand on est prof, quand on a conscience qu'on met en jeu des choses comme ça, si on demande à nos élèves d'écrire, c'est important. Troisième point, c'est ce que j'appellerais l'événement, c'est ce que Ricoeur appelle l'événementialisation du réel. C'est-à-dire que raconter, c'est forcément mettre un début et une fin. Dans le continuum de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai délibéré, je crée un événement, je mets un début et une fin. Je crée une unité, si vous voulez, une unité de sens, qui ne sera pas forcément la même si c'est moi qui la mets, si on a vécu la même chose à deux. Moi, peut-être que je vais découper au cutter un événement d'une certaine façon et qu'une autre personne va découper d'une autre façon. Événementialiser le réel, ça veut dire que je découpe, je fais des fragments. Ces fragments, je peux les mettre en relation, je peux les mettre en lien, je peux ensuite recréer, voire recréer même loin de ce que j'ai vu ou de ce que je voulais raconter initialement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ensuite c'est repris, c'est-à-dire que vous-même, vous entendez, vous écoutez une narration d'un événement, vous allez la réintégrer dans votre propre discours, dans votre propre narration, vous allez en faire part à quelqu'un d'autre et peut-être les choses vont se modifier, se transformer comme cela. Et peut-être même que l'événementialisation initiale aura disparu. En conclusion, c'est avec des récits et des histoires que s'établissent les liens et les contraintes sociales. C'est avec des récits et des histoires que se construit l'identité. On pourrait dire l'identité narrative dans les termes de Ricoeur. Alors, l'identité, ça pose toujours problème, parce que quand j'emploie ce terme, on peut se dire, oui, mais alors, on parle d'enfant ou de jeune, l'identité, elle n'est pas, il n'y a pas une identité. Voilà, vous savez, il ne faut surtout pas qu'on entende identité comme le type qui dit, moi, je pense ça, moi, je ne change pas d'avis, moi, j'ai toujours pensé ça, j'ai une identité, je suis comme du fer, comme du marbre. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. C'est plutôt une définition de l'identité que François Dubé, le sociologue, donne et que je trouve magnifique. Il dit « Les identités ne sont pas des êtres, des substances, des natures, mais des tensions et du travail. Virgule, celui que les individus réalisent sur eux-mêmes afin de se construire. » C'est-à-dire que si on entend l'identité comme le travail que l'élève réalise sur soi-même, sur lui-même, pour se construire, alors le travail du texte va contribuer à construire cette identité narrative, cette mythologie personnelle, cette façon d'être au monde sans laquelle on ne peut plus vivre aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.